présenté par Thomas Carabin.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Dans l'actualité ce matin, la guerre en Ukraine, un an déjà. Beaucoup se sont mobilisés pour venir en aide aux réfugiés, rencontre ici à Liège avec l'abbé Chevstov. Des Ukrainiens dans l'impossibilité d'exercer leur métier. Christophe-Olivier Ninos a interviewé Irina Belan, journaliste ukrainienne exilée en Belgique. Sur notre plateau, nous accueillons Michel Hermans, professeur de géopolitique à l'Université de Liège. Nous reviendrons sur les conséquences de la guerre sur la Belgique. Et en fin de journal, place à la culture avec Simon Les Enfants. Accueillir les familles venues d'Ukraine, c'était la mission de plusieurs organismes ou particuliers. Parmi eux, associations, services sociaux, mais aussi ressortissants déjà présents en Belgique. Lola Carvajal.
Absolument Thomas. Ici à Liège, parmi les aides publiques, on peut notamment citer l'accueil Kiss and Drive à la gare des Guillemins, les récoltes alimentaires de la Croix-Rouge, mais aussi la cellule Ukraine du CPAS. Outre ces organismes, des Liégeois aident eux aussi les réfugiés. L'abbé Mikhailo Chevstov, lui-même d'origine ukrainienne, est l'un d'entre eux.
On distribuait des colis de nourriture, on distribuait des vêtements. Parfois, on aidait dans tous les côtés. Il y a des gens qui sont encore déjà plus de temps ici en Belgique, qui ont appris le français, qui les guidaient un peu partout pour faire cette démarche administrative.
Des aides qui malheureusement ne suffisent pas toujours. La barrière de la langue et la situation économique entraînent des difficultés. Malgré les efforts pour trouver un logement, les Ukrainiens sont contraints de changer de pays ou de retourner en Ukraine.
La seule difficulté qui est commune pour tout le monde ici en Belgique, c'est de trouver un logement. Pour un certain nombre de personnes, c'était mission impossible et donc ils ont dû soit changer le pays d'accueil, soit même de retourner en Ukraine. Il y avait même des cas comme ça.
Une aide indispensable mais complexe, l'abbé souligne tout de même l'efficacité et le soutien de la ville de Liège et de la région. Tant que le conflit aura lieu, la solidarité sera toujours de mise, ici en Cité Ardente.
Irina Belan est une journaliste ukrainienne exilée ici en Belgique. Elle écrit à distance pour des médias ukrainiens. Pour elle, continuer d'informer les Ukrainiens est primordial, Christophe Olivier.
Oui Thomas, Irina nous explique que la population ukrainienne a besoin d'être informée, mais aussi de sentir que le reste du monde les soutient. Irina, membre de l'Union des journalistes ukrainiens, s'est réfugiée en Belgique après l'éclatement de la guerre. Aujourd'hui, elle exerce son métier depuis Harville gratuitement.
J'écris pour des plateformes culturelles ukrainiennes, mais gratuitement, parce que les gens ont besoin d'être informés. Ils aimeraient sentir que le monde est toujours autour d'eux.
Irina est soucieuse de s'appliquer dans son pays d'accueil, de participer à l'information au sujet de l'Ukraine.
Tout d'abord, j'ai appris le néerlandais. Ensuite, j'aimerais apprendre le français. Et par après, j'aimerais être impliquée dans la pratique journalistique en Belgique.
Les plans à long terme sont compromis. Irina choisit de s'organiser à court terme. Je cite, « Chaque jour en vie et en famille est une victoire ». Fin de citation.
Avant la guerre, j'étais journaliste, maman et un être humain. Être journaliste et maman, ça nécessite de l'organisation.
Ça fait maintenant un an que la guerre dure en Ukraine, le pays tient bon, mais Vladimir Poutine, le président russe, ne semble pas vouloir s'arrêter là. Avec nous en plateau, Michel Hermans, professeur à l'Université de Liège, vous êtes spécialiste de géopolitique, vous enseignez notamment sur les enjeux politico-économiques internationaux. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quelles sont encore les conséquences pour la Belgique après un an de guerre en Ukraine ?
La première conséquence, j'aurais tendance à dire, c'est comme pour la plupart des pays, l'inflation, la hausse des prix de l'énergie qui avait déjà commencé un peu auparavant, mais qui cette fois-ci sont devenus importants. La deuxième cause, alors que la Belgique est déjà fortement endettée, c'est l'aide que la Belgique apporte à l'Ukraine. Cette aide, nous ne sommes pas bien placés dans le classement des pays qui aident l'Ukraine. Nous sommes dans le bas du classement, mais c'est pratiquement un quart de milliard d'euros, de 145 millions, dont 145 millions pour l'aide militaire et le reste pour l'aide humanitaire. J'aurais tendance à dire aussi que on ne le dit pas souvent, mais le maréchal Hoffman, l'amiral Hoffman, qui est le chef d'état-major de l'armée belge, dit clairement que les deux camps, c'est-à-dire la Russie d'un côté et l'OTAN de l'autre, se préparent à l'offensive. Donc ça crée un climat de guerre froide qui risque de devenir une guerre chaude, qui est déjà d'ailleurs une guerre chaude dans une partie de l'Europe.
Et alors, cette guerre a aussi un fort impact au niveau énergétique. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ça perdure ?
Alors, pour l'instant, il faut quand même reconnaître qu'on a eu une augmentation très forte des prix du pétrole comme du gaz. Ça a eu des répercussions sur toute la chaîne économique, puisqu'on utilise de l'énergie à peu près dans tout. Pour l'instant, les prix sont plutôt à la baisse. Ça, c'est une première chose. Mais selon les experts, je dis bien selon les experts, ce n'est pas moi qui le dis, mais 2023 resterait une année très difficile. Mais la crise énergétique pourrait stopper en 2025, voire en 2024. Et donc, quelque part, on a une perspective d'un an encore à devoir se serrer la ceinture.
D'accord. Et justement, pour l'avenir, la fin de la guerre, est-ce qu'on peut l'attendre bientôt ou bien est-ce que ça va encore durer ?
Alors, si on arrive à mettre personne autour de la table avec une volonté de faire un bout du chemin, ce n'est pas possible de terminer la guerre aussi rapidement. Ou bien alors l'aide militaire occidentale sera énorme pour l'Ukraine, encore plus que ce qu'elle a été jusqu'à présent. Et c'est ce qui a donné d'ailleurs une force face à une armée russe qui n'est pas du tout organisé et pas du tout au point au niveau de son matériel. On l'avait déjà vu à la fin de la guerre froide où le matériel soviétique avait été très défaillant pour l'Irak en 1990 lorsqu'on a reconquis le Koweït. Mais cette fois-ci, c'est véritablement une plus petite armée qui parvient à tenir tête à une grosse armée comme l'armée russe. Soit il y a une offensive d'un côté ou de l'autre et ça peut aller très vite, soit ça va traîner. Si ça traîne, bien on est parti pour peut-être plusieurs années encore de guerre. Et la seule chose qui pourra la stopper, c'est faute de moyens financiers. Ouais. Et j'aurais tendance à dire plus encore du côté russe, même s'il y a un camp anti-occidental qui se crée entre Russie, Chine, peut-être l'Inde. On vient de voter aux Nations Unies hier une condamnation de la Russie, une nouvelle fois. Dans les neutres, ceux qui ne votent ni pour ni contre, il y a la Chine et l'Inde qui pourraient faire un bloc avec la Russie contre le monde occidental. Donc c'est une redistribution de la géopolitique actuelle.
Ben merci. Donc on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. On
ça risque de durer continuer. Longtemps.
Voilà, merci beaucoup Michel Hermans. C'est la fin de notre page Ukraine. Maintenant, place à l'actualité nationale et internationale.
Il est 9h38, vous écoutez toujours 48FM.
Christophe Olivier Ninos fait le point sur l'actualité en bref. En Belgique, Dries Van Langenhove renvoyé au tribunal correctionnel de Flandre-Orientale.
La chambre des mises en accusation de Gand a pris ses décisions hier. Pour rappel, l'ancien député du Vlaams Belang est suspecté de négationnisme. L'affaire fait suite à un reportage diffusé par la chaîne flamande VRT en 2018. Dans ce reportage, les conversations du groupe d'extrême droite fondé par Van Langenhove, Schild en Vrienden avaient été dévoilées. On y découvrait des messages à caractère raciste et antisémite.
Le Belge Olivier Van de Castel est détenu depuis un an aujourd'hui en Iran.
Le travailleur humanitaire Olivier Van de Castel avait été arrêté pour espionnage selon Téhéran. Condamné à une peine de 40 ans de prison, il est détenu aujourd'hui en isolement complet et dans des conditions très difficiles. Son espoir de sortie réside dans un traité de transfèrement où il pourrait être échangé avec l'Iranien Assadollah Assadi. Ce dernier est détenu en Belgique pour tentative d'attentat. C'est la Cour constitutionnelle qui décidera si l'échange peut avoir lieu. La décision est attendue pour le 8 mars.
Aux États-Unis, le producteur Harvey Weinstein condamné à 16 ans de prison pour viol.
Hier, le producteur hollywoodien a été jugé coupable de viol et agression sexuelle. Les faits remontent à 2013. Cette peine s'ajoute à une condamnation de 23 ans, décidée en 2020. Pour rappel, plusieurs affaires de viol, agression et harcèlement accablaient Weinstein. Ses plaintes étaient à l'origine du mouvement MeToo en 2017. Ce soulèvement a permis de libérer la parole de nombreuses femmes partout dans le monde.
Merci Christophe Olivier. Place à la culture maintenant. Hier, les Amphigouriques nous invitaient au théâtre de l'Université de Liège. Au menu, une pièce comique interprétée par des étudiants. Simon Les Enfants s'est rendu sur place.
Mesdames et messieurs, bonsoir. et bienvenue à cette représentation du voyage de Monsieur Perrichon.
Le public s'attelle, la lumière s'éteint, les acteurs se placent autour des décors. Le voyage de Monsieur Perrichon, la pièce de théâtre proposée par les Amphigouriques cette année, peut enfin commencer.
Je me suis demandé un petit congé que je n'ai pas hésité à m'accorder.
Ainsi, pendant 2 heures, les comédiens, qui sont aussi des étudiants, jouent cette pièce remplie d'humour, d'amour et de compétition. Chacun dans la peau de son personnage, ils essayent pourtant d'apporter une touche personnelle. Sam Chédron, Monsieur Perrichon lui-même.
On essaye d'incarner le personnage à fond parce qu'au final, on commence à évoluer avec le personnage, à lui créer un univers, à le façonner. Et au final, on essaye de se l'approprier, de refléter sa personnalité aussi dans le personnage. C'est ça qui est important aussi, je pense.
Cette année, et comme l'année précédente, la pièce s'accompagne d'interludes. Ses musiques interprétées par 2 violonistes ont un but très précis, comme nous l'explique Lucas Sacco, le metteur en scène.
On a essayé de trouver des musiques qui correspondaient au ton de la pièce. Ici, on s'en est servi pour combler le vide des changements de décor, parce qu'autrement, un changement de décor sans musique, juste avec des bruits de pas et des « attention, il faut le mettre là !» et des choses du genre, c'est un peu vide.
Dernière représentation, ce soir 20h, dans le Théâtre Universitaire Royal de Liège.
Moi, de la vanité ? Oh, j'aurais peut-être le droit d'en avoir, tiens.
Merci à toutes et tous, merci Michel Hermans, c'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi matin avec Pauline, Lola, Manon, Valentine et Marina. Belle journée à tous sur 48FM.